Chapitre 39. Même terrifié et en état de choc, Chardon se repéra parfaitement dans l'obscurité. Tenant sur les nerfs, elle guida ses compagnons de canyon en canyon, de plus en plus loin de la menace des hommes poussières. Épuisés, les fugitifs ne parlaient pas pour économiser leur souffle. Devant eux, la gamine luttait visiblement pour assimiler ce qu'elle venait de traverser. Sa rage de survivre envers et contre tout lui valut l'admiration de Nietzsche. Au milieu de la nuit, les quatre compagnons atteignirent le haut plateau. Se sachant protégé par une incroyable épaisseur de roche, Chardon s'assit sur le sol. Ses jambes trop maigres pliées sur la poitrine, elle posa les mains sur le devant de sa robe et riva les yeux sur le ciel.
« Je crois que nous sommes en sécurité, » dit Nietzsche. « Merci beaucoup. »
La gamine commença à trembler. Mais comment la réconforter? La magicienne ne savait pas faire ce genre de choses. Par bonheur, Nathan eut l'excellente idée de s'en mêler.
« Je suis navré, mon enfant. C'était ta maison, ta tante et ton oncle. »
« Il s'occupait de moi, oui. Mais la plupart du temps, j'étais seul. » Ça m'allait très bien et ça continuera comme ça. »
Chardon pointa fièrement le menton. Pourtant, quand ses yeux croisèrent ceux de Nietzsche, ils se remplirent de larmes.
« Marcus et Luna disaient toujours que j'étais une grosse responsabilité pour eux, trop indisciplinée. »
Derrière les larmes, constata Nietzsche, une détermination d'acier brillait dans les yeux de la fillette.
« Je m'en sortirai, ouais. Je n'en doute pas. »
dit la magicienne.
« Et je suis sérieuse. »
Quelques secondes plus tard, Chardon éclata en sanglots. Comme un grand frère, Bannon lui passa un bras autour des épaules. Se serrant contre lui, elle pleura à chaudes larmes. Embarrassé face à ce torrent de chagrin, le jeune homme lui tapota le dos.
« On va camper ici, »
dit Nietzsche après avoir jeté un regard autour d'elle.
« C'est un point facile à défendre. Dès l'aube, nous repartirons. »
Chardon s'écarta de Bannon et s'ébroua.
« Aucun endroit n'est sûr, » rappela-t-elle, « sauf quand on y est avec toi. Ensemble, nous ne risquerons rien. »
Pendant que les autres essayaient de dormir, Nietzsche prit le premier tour de garde. Dans cette aventure, ils avaient perdu leur paquetage, mais ils feraient sans. Grâce à la magie de Nietzsche, bien sûr, mais surtout avec l'aide de Chardon, experte de la survie en terrain hostile. Une enfant dont les talents resteraient très utiles même quand il s'éloignerait de la balafre. Vidé de ses forces, Nathan ronflait comme un sonneur, les yeux mi-clos cependant. Habitué aux nombreuses bizarreries des sorciers, dormir les yeux grands ouverts n'était pas la pire, Nietzsche trouva inquiétant que les paupières du vieil homme soient à demi baissées. Une indication du mal qui le frappait depuis le changement stellaire? Ce que Rouge appelait « ne plus être entier » Mais comment la voyante avait-elle su tout ça? Nietzsche sonda le ciel, avide de comprendre la nouvelle configuration des astres, mais elle en fut pour ses frais. Sur ses gardes, elle sonda la nuit à chaque bruit suspect, chaque fois il s'agissait seulement des déplacements de petits animaux. D'humeur méditative, elle fit le point sur sa situation. Le seigneur Rall avait besoin qu'elle explore l'ancien monde, un territoire pour l'essentiel inconnu. Quel rapport avec le salut du monde? L'idée même qu'il dépende d'elle était ridicule. Mais pour l'heure, le grand sujet, c'était le buveur de vie. Sa balafre grossissait régulièrement et nul ne savait où elle s'arrêterait. Et il avait lancé ses hommes poussières contre les trois voyageurs. Une grossière erreur, selon Nietzsche, parce que désormais elle en faisait une affaire personnelle. D'abord, elle allait devoir se renseigner sur ce sorcier. Quel était son objectif? Pourquoi avait-il momifié les habitants de la vallée pour qu'ils deviennent ses serviteurs? Une affaire d'appétit? Une fringale d'âme et d'énergie vitale? Sa magie mortelle, quoi qu'il en soit, avait fait plus de dégâts que des milliers de violettes tueuses. À ce propos, Nietzsche se félicita d'avoir gardé la fleur offerte par Bannon dans une poche secrète de sa robe et pas dans son paquetage. À présent, il allait falloir trouver l'endroit nommé « Surplomb du monde ». Après avoir vu les habitants des sources de Verdun disparaître dans le sol, Nietzsche était résolu à aller au bout de cette histoire. Depuis son retour à la lumière, tout ce qui touchait à l'oppression la répugnait. Tuer les gens ou les réduire en esclavage lui semblait un acte ignoble. Le buveur de vie n'était ni plus ni moins qu'un tyran, et une fidèle de Richard avait l'obligation morale de le combattre. Voyant ou pas, prophétie ou non, c'était clair comme de l'eau de roche. Chardon se réveilla un peu avant l'aube, aussitôt fraîche et dispose. Regardant autour d'elle, elle repéra Nietzsche et courut la rejoindre. Après un long silence, elle parla enfin.
« Je peux nous conduire jusqu'à surplomb du monde. C'est une certitude. Tu y rencontreras les érudits qui te diront comment détruire le buveur de vie. Je le hais. C'est pour ça que je te guiderai jusque là-bas. »
« Je te crois, » dit Nietzsche.
« Nathan et moi sommes aussi des érudits en matière de magie. S'il y a une réponse à surplomb du monde, nous la trouverons. Et s'il n'y en a pas, je te jure que nous imaginerons quand même un moyen de nous débarrasser du buveur de vie, quoi qu'il en coûte. »
Les yeux gonflés de larmes, Chardon hocha gravement la tête.
« Et après, je pourrais rester avec vous trois? Je n'ai plus personne d'autre. »
Pour cacher son désespoir, la fillette se racla bruyamment la gorge. À l'évidence, sa propre faiblesse la hérissait. Mais comment entraîner cet enfant, si débrouillarde fut-elle, dans un voyage jusqu'à Colader? Jugeant que c'était impossible, mais consciente que Chardon avait déjà pris assez de coups comme ça, Nietzsche opta pour une côte mal taillée.
« On verra, »
éluda-t-elle. Dès que le soleil apparut à l'horizon, Chardon secoua Bannon et Nathan pour les réveiller.
« Il faudra plusieurs jours pour atteindre surplomb du monde, » dit-elle. « Et le chemin sera difficile, mais si vous me suivez, je vous conduirai à bon port. »
La fillette sourit fièrement.
« Nous n'avons ni eau ni nourriture, »
objecta Bannon en rattachant ses longs cheveux roux. Chardon plaqua les poings sur ses hanches et leva le menton.
« Ça, je m'en chargerai. »
Au sommet du haut plateau, une autre série de passes rocheuses attendait les voyageurs. Vus de loin, ces défilés ressemblaient à la cage thoracique de quelques monstres de légende. Nietzsche et ses compagnons s'y engagèrent, s'éloignant de plus en plus de la balafre. Désorienté dans ce labyrinthe de pierre, Nietzsche se demanda si Chardon n'avait pas présumé de ses forces ou de son sens de l'orientation. Dans cette forêt de roches ocre, quelques pins rachitiques, une poignée de buissons d'acacia et des grands cactus rompaient par moments la monotonie du paysage. Dans les coins ombragés, des tamaris s'accrochaient à la roche, deux branches noires se tendant comme des serres vers les voyageurs. Contrairement à la balafre, ce désert était une zone naturelle peuplée d'une flore saine. Mais la peste du buveur de vie ne tarderait pas à l'affecter. Nietzsche en aurait mis sa tête à couper. Une main en visière, Nathan admirait le paysage.
« C'est magnifique, je veux bien l'admettre. »
Il posa une main sur sa sacoche qui contenait toujours son livre de vie. Un des rares biens qu'il avait sauvé du désastre.
« Mais l'idée de cartographier ce terrain me donne de l'urticaire. Chardon, comment ne pas nous perdre ?»«
Je te l'ai dit, sorcier. En suivant le guide, je vous montrerai l'endroit où surplomb du monde a été caché pendant des millénaires. » J'ai exploré ce coin et je sais où je vais.
Tu as exploré tout ça?
Fit Bannon sceptique.
Bah quoi? J'ai 11 ans après tout.
Je ne vois aucune raison de ne pas la croire, dit Nietzsche, sautant de rocher en rocher derrière sa protégée. Bien moins agiles, les deux hommes eurent quelque peine à suivre. Chardon les fit parfois avancer au bord du gouffre, le long de plusieurs buttes rocheuses, puis les ramena dans des défilés trop étroits pour qu'ils marchent de front. À chaque pause, la petite orpheline restait près de Nietzsche et regardait mélancoliquement en direction de la balafre, des lieux derrière le petit groupe.
« J'ai entendu des gens évoquer la beauté de la vallée, » soupira-t-elle lors d'une de ses pauses. « Des forêts, des cours d'eau, des champs cultivés, une sorte de paradis, l'endroit parfait où vivre. » Quand Marcus et Luna en parlaient, ils en avaient les larmes aux yeux. Tant de choses ont changé depuis ma naissance. Et le passé semble si merveilleux. C'est pour ça que Marcus et Luna sont restés. Ils croyaient à la renaissance de la vallée.
Chardon chercha le regard de Nietzsche.
Tu vas lui rendre la vie et je t'aiderai. Ensemble, nous nous battrons et nous réussirons.
Face à tant d'enthousiasme, la magicienne ne voulut pas jouer les oiseaux de mauvais augure.
Nous y parviendrons peut-être, oui.
Vers la fin d'une longue journée de marche, Chardon conduisit ses amis au bord d'un grand ravin. Suivant une improbable piste, elle les guida difficilement jusqu'au fond.
« On va trouver de l'eau et c'est un bon endroit où camper. »
De fait, la gamine dénicha un emplacement idéal sous un éperon rocheux où il fut possible de trouver assez de petits bois pour allumer un feu de camp aux flammes vivaces et à la fumée au doux parfum. Comme promis, un point d'eau permit aux voyageurs de se désaltérer et même de faire un brin de toilette. Un peu avant le crépuscule, Chardon partit en chasse et revint très vite avec 4 lézards bien gras. Affamés, les voyageurs firent rôtir les reptiles tels quels et n'en laissèrent pas une miette. Suivant Chardon, le petit groupe monta de plus en plus haut sur le plateau. 3 jours durant, il avança dans un décor semé d'acacias, de yucca, de l'Area tridentata et d'autres plantes typiques des zones désertiques. Très au-dessus des sources de verdun, les voyageurs traversèrent de hautes terres qui contournaient les contreforts de la grande vallée dévastée, puis ils remontèrent vers le haut plateau. Pour finir, comme si l'altitude avait tendance à boursoufler la roche, ils se retrouvèrent dans une nouvelle enfilade de canyons. Sûr d'elle, Charnon avança d'un bon pas dans ce labyrinthe. Très vite, Nietzsche, Bannon et Nathan perdirent tous leurs repères, même rebrousser chemin leur aurait été impossible. Pourtant, la magicienne garda toute sa confiance à Chardon. Un matin, alors qu'ils abordaient une zone où les canyons s'élargissaient puis cédaient la place à une succession de grandes colonnes rocheuses aux formes les plus étranges, Nietzsche posa une question à la gamine.
« Quand tes parents sont morts, tu avais quel âge ?»«
J'étais toute petite. À l'époque, il y avait beaucoup de gens aux sources de Verdun. La balafre était encore loin, mais le buveur de vie nous menaçait déjà.
Je me souviens un peu de ma mère, une très belle femme. Quand je pense à elle, je vois des arbres, des prairies, des cours d'eau et des fleurs, un jardin de fleurs même. Tandis que la balafre rongeait la vallée, mes parents tentaient de moissonner tout ce qui pouvait encore l'être. Un jour, ils sont partis explorer un verger d'amandiers. Les arbres étaient déjà morts, mais il restait des fruits à ramasser. Ils ne sont jamais revenus. »
Chardon continua en silence quelques minutes, puis elle reprit.
Bien que la balafre semble morte, certaines créatures ont un lien avec le buveur de vie. Du coup, il ne les tue pas, mais il les transforme pour se servir d'elles.
Comme les hommes poussières ? Demanda Nietzsche.
Oui, mais il n'y a pas qu'eux. Des araignées, des 1000 pattes, des poux monstrueux.
Nietzsche en eut les sangs glacés.
Je déteste les poux.
Eux aussi sont des buveurs de vie, intervint Bannon. Pas étonnant que le sorcier les apprécie.
Qu'est-ce qui a tué tes parents ?
Demanda Nathan.
Des scorpions avaient envahi les amandiers. Quand Marcus et 2 autres villageois sont partis à la recherche de mes parents, ils ont trouvé leurs cadavres gonflés sous l'effet du venin. Le buveur de vie les a quand même transformés et ils ont attaqué Marcus et ses amis.
Chardon jugea inutile de préciser ce que les 3 villageois avaient dû faire pour s'en sortir vivants.
Après, je suis resté avec Luna et Marcus. Ils ont promis de veiller sur moi, mais ils sont morts. Et les sources de Verdun n'existent plus. Mon univers a disparu.
Tu es avec nous, petite, dit Nathan encourageant. On s'en sortira.
Pour sûr, renchérit Bannon. Si on arrive un jour à surplomb du monde.
Chardon chercha le regard de Nietzsche et sourit.
C'est pour demain. Parole de mauvaise herbe.
Le lendemain matin, Chardon fit avancer ses amis au fond d'un canyon qui semblait avoir subi moult crues pendant des orages, mais pas depuis un certain temps. Coincés entre 2 hautes murailles rocheuses, Nietzsche, Bannon et Nathan furent une fois de plus totalement désorientés.
« Tu es sûr qu'il y a une sortie, petite ?»
demanda le vieux sorcier perplexe.
« C'est tout droit !»
lança Chardon. Quand le chemin rétrécit encore, Nietzsche elle-même se sentit mal à l'aise.
Une embuscade sur un terrain pareil. Un cul-de-sac,
marmonna Bannon.
C'est sûr et certain. Pas du tout,
affirma Chardon.
Suivez-moi.
La gamine avança jusqu'à une muraille rocheuse qui semblait infranchissable.
Vous voyez la crevasse, là?
Lança la fillette. Se mettant de profil, elle rentra le ventre, avança, et disparut. Nietzsche vit que la crevasse était en réalité un passage, étroit certes mais praticable. Suivant sa protégée, elle avança et respira mieux quand elle vit de la lumière au sortir d'une courbe. La magicienne déboucha à l'air libre dans un immense canyon où Chardon l'attendait en sautillant d'impatience. En râlant d'abondance, Nathan émergea à son tour, un banon un peu vert sur les talons. Le souffle coupé, tous s'abîmèrent dans la contemplation de surplomb du monde.